Radio Canu, la plus rebelle des radios.
All your call is a diamond fella. All your little ways of a comedy of errors. You bellow with your fellows get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tame like the shoe. You midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Monarchy, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice getting so your CD. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know what's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. Your caller, I do what you like. You much to do about nothing, all you do is bite it. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire, things look dire. Better run like Pericles, Prince of Tyre. Off the scale, cold as a winter tale. Tight as Andronicus was bound to fail. So will you if a caller get at ya. That's suicide like Annie and Cleopatra. Cymbeline, she was a man of day, Bridget Jones. Love's labors lost a woman on her own. She needed two gentlemen of her own. This is ill estate and I am the owner. Wise is the man that knows a fool. Tempt not a desperate man with a jewel. I take from Peter to go and pay full sunrise by sinning by virtue fool. What have you made if you gain the whole world? But sell your own soul for the price of a pearl. The world is my oyster and I am starving. I want much more than a penny or a farthing. I've told no joke, I hope you're not laughing. Poet or pauper, wish to your classroom. Speak eloquent, though I am resident to the gritty in a city that's surely irrelevant. Call it urban, call it street, a rose by any other name, smell just as sweet. Spit so hard but I'm smart at the bar. Come through with a Union Jack full of yard.
Sachez que ce journal est réalisé uniquement par des personnels non grévistes.
Qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement,
Bonsoir, il est mercredi 19 novembre, il est 19h passé de 4 minutes et c'est
l'heure du second générique.
Bon bah t'enchaînes alors.
Eh ben alors ce soir qu'est-ce qu'on va faire? Bon des petites brèves, tout ça. Et puis après, Colomb plaide, semble-t-il, pour plus de précarité. On aura un peu plus de détails.
Palestine, de nouveaux attentats et la reconnaissance de l'État palestinien par l'Espagne.
Le Ku Klux Klan actif à Ferguson, c'est aux States.
Des nouvelles du Burkina Faso.
Et puis ça sera l'heure de notre chronique, il faut que ça se sache, avec Calais, avec des histoires de rapports sur les centres de rétention, etc. etc. Puis après, bah, ça sera la fin.
Et on commence par une petite brève, donc je vais essayer de faire vite, c'est le budget 2015, les principales mesures votées à l'Assemblée. Donc en première lecture, donc suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu, augmentation de la taxe de séjour, du prix du gasoil. Là, je vais vous dire beaucoup de chiffres pour un tour d'horizon des principales mesures du projet de loi Finances 2015. Donc en gros, c'est raboter 800 millions après l'examen au Parlement. Donc suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu qui doit bénéficier à 6,1 millions de foyers fiscaux pour 3,2 milliards d'euros et s'ajouter à réduction d'impôt pour 2014 votée cet été. Hausse du gasoil de 400 d'euros par litre au 1er janvier, y compris pour les poids lourds. Et sur les 21 milliards d'économies sur l'ensemble des administrations publiques, 7,7 milliards d'euros sont demandés à l'État et à ses agences. Baisse de 3,7 milliards d'euros de la dotation globale de fonctionnement aux collectivités locales. Voilà, du coup, la mesure surtout à retenir dans ce budget, ben, c'est les baisses énormes autour de la fonction publique.
Alors, eh ben, on a Gérard Collomb qui plaide un peu pour plus de précarité. C'est dans une interview au magazine L'Usine Nouvelle où notre fameux maire de Lyon a donné quelques exemples de réformes qu'il aurait bien mis en place s'il avait décroché le ministère du Travail au dernier remaniement. Alors, bah, dans un premier temps, il nous dit qu'il aurait bien augmenté la durée maximale des CDD. Et ensuite, alors il a plaidé pour que les périodes d'essai des CDI passent de... Alors actuellement, on est entre 2 et 4 mois de période d'essai, suivant le poste qu'on occupe. Et alors, vous imaginez qu'il veut les repousser à combien de temps ?
À Collomb, c'est un grand libéral quand même. Il peut les repousser à 6 mois.
Non, bien plus ! Comme 2 ou 3 ans, par exemple.
Ah ouais.
Oui, ouais, bah, on sait qu'il voit grand. Alors ça, il nous explique, c'est pour permettre au patron d'évaluer le salarié et l'évolution de l'activité.
Bon, en gros,
c'est pas mal, oui. Bon, par évolution de l'activité, ça veut dire qu'en gros, il peut licencier à n'importe quel moment.
C'est ça, parce qu'on rappelle que la période d'essai, c'est la période pendant laquelle le patron ou le salarié peuvent mettre fin au contrat sans aucun... Enfin, juste comme ça, en décidant du jour au lendemain, quoi.
C'est ça. Et alors sur les licenciements du coup qui deviendraient bien plus difficiles après cette période assez courte hein, selon lui de 3 ans où les gens vivraient avec une espèce d'épée Damoclès au-dessus de la tête, il souhaite qu'il soit possible de, attention écoutez bien, licencier de manière pas forcément plus facile mais plus contractuelle. Bon là tout ça devient un peu mystique mais bon on voit quand même bien l'idée de son projet derrière tout ça. Ensuite, il conclut son entretien avec une pointe d'amertume par rapport au gouvernement et plus précisément à François Hollande.
Je te demande pourquoi c'est Valls qui a été choisi alors que lui aurait pu être largement pire.
Bah exactement, s'il était complètement prêt à choper un ministère, il s'était même ridiculisé avant l'annonce des nouveaux ministères au dernier remaniement où il avait déclaré « s'il m'appelle, j'y vais ». Bon, il est resté très longtemps à côté de son téléphone qui n'a jamais sonné. La légende dit même qu'il aurait fait intervenir France Télécom pour savoir s'il n'y avait pas un problème sur la ligne, mais non. Et il confie même qu'il ne se sent pas très écouté au sein du Parti Socialiste et que personne n'a lu son dernier livre.
Oh, ah, le pauvre.
Nous non plus.
Est-ce que quelqu'un savait qu'il avait écrit un dernier livre ?
C'est ça. Après, bon, j'ai l'impression que lui, il dit qu'il ne se sent pas écouté parce qu'il trouve que le Parti Socialiste ne va pas assez du côté du libéralisme, ce qui quand même, nous, en tout cas, on trouve qu'ici, il y va bien trop.
Correspondant n'a réussi jusqu'à présent qu'à récupérer les petites anecdotes, insuffisantes pour la compréhension et la neutralisation des réseaux qui nous intéressent.
Eh bien, je vais parler de la Palestine et pour commencer, je vais commencer par la bonne nouvelle. C'est les députés espagnols qui appellent à reconnaître l'État palestinien. Donc, ils ont adopté hier quasiment à l'unanimité une motion appelant le gouvernement espagnol à reconnaître l'État palestinien. Un signe très encourageant avant un vote similaire au Parlement français le 28. Donc, cette motion avait été déposée par l'opposition socialiste et a fait l'objet d'une négociation entre les partis. Cette reconnaissance précise le texte doit être, je cite, la conséquence d'un processus de négociation entre les partis qui garantissent la paix et la sécurité pour les deux et le respect des droits des citoyens et la stabilité régionale. Bon, c'est un peu du blabla, mais voilà. Il demande au gouvernement espagnol de mener une action coordonnée avec l'Union européenne et cette motion, écoutez bien, a été adopté à la quasi-unanimité par 319 voix pour, 2 contre et 1 abstention. C'est quand même assez étonnant, puisque le Congrès est dominé par la droite. Les députés espagnols, par ce vote, demandent au gouvernement de reconnaître la Palestine comme État et sujet de droit international. Ce qui changerait en vrai considérablement la donne si ça passe sur l'ensemble de l'Union européenne par exemple. Et la motion demande également au gouvernement d'œuvrer en ce sens en cherchant une action concertée avec la communauté internationale, en partie l'Union européenne, en prenant pleinement en compte les préoccupations légitimes, les intérêts, les aspirations de l'État israélien. Bon, ils sont un peu obligés de faire ça vu les pressions de l'État d'Israël. Elle demande enfin que l'Espagne se serve de son siège au Conseil de sécurité pour promouvoir une solution juste et durable dans la région. Donc l'Espagne va ainsi dans le sens de plusieurs pays européens. Donc il n'y a pas que l'Espagne, il y a la Suède, la Grande-Bretagne, dont les parlements ont voté en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien. Et nous...
Ça va se faire ?
Oui, donc ça sera le 28 novembre. Les députés français auront également à se prononcer sur une résolution comparable. Et sauf qu'aujourd'hui, il y a eu l'UMP qui a menacé de ne pas prendre part au vote et donc qui s'oppose donc à la reconnaissance d'un État palestinien et donc bah pour montrer que en France la situation est plus complexe. Sinon je voulais revenir sur l'actualité du jour.
Bah, l'UMP ne va pas prendre part au vote, mais en fait, c'est pour des histoires de procédure. En tout cas, eux, ils disent ça, mais c'est parce qu'ils savent à l'avance, effectivement, que la France, que ça va marcher. Mais ce qui veut dire qu'en fait, du coup, sur ce coup-ci, la France va effectivement reconnaître un État palestinien. Enfin, ça serait, sauf énorme surprise, la France reconnaîtra un État palestinien dès le 28 novembre. Puisqu'il n'y aura que les gens qui sont plutôt pour qui vont voter en réalité.
Oui, mais ce que j'essayais de montrer par rapport à l'Espagne, c'est que ça se passe d'une autre manière et il n'y a pas les mêmes formes de consensus au sein même des gouvernements et de droite comme de gauche. Et sinon, bah, je voulais revenir sur l'actualité là, d'hier et d'aujourd'hui, puisque bah, y a une attaque qui s'est produite tôt hier matin. Donc ça s'est passé en Israël. Donc je raconte les faits. Donc armés de couteaux et de haches, deux Palestiniens sont allés à l'heure de la prière dans une synagogue du quartier ultra-orthodoxe de Harnof, bastion du parti religieux le Chass. Ils ont tué 4 personnes et ont blessé 8 autres, dont 4 gravement, avant d'être abattus par les flics. Cette nouvelle attaque vient aggraver bah, encore une fois le climat de tension et d'affrontement qui règne à Jérusalem de façon continue depuis le mois de juin, sur fond d'occupation, de répression et d'intensification de la colonisation dans la partie est de la ville. D'ailleurs, ces derniers temps, il y a encore eu des manifs à différents endroits d'Europe pour de Palestiniens pour s'opposer donc à l'occupation des nouveaux quartiers de Jérusalem Est. Et je reviens en arrière après la fermeture de l'esplanade des mosquées le 30 octobre et les provocations à répétition d'extrémistes messianistes appuyés par les responsables politiques israéliens dans ce sanctuaire considéré par les musulmans comme le troisième lieu saint de l'islam. Le slick des violences a connu une nouvelle accélération avec une succession d'actes isolés. Donc lundi, c'est la découverte d'un corps d'un chauffeur de bus palestinien retrouvé pendu dans son véhicule. Bien sûr, sa famille contestait d'une autopsie concluant au suicide. Donc, réagissant à l'attaque de la synagogue de Harnof, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en a aussitôt imputé la responsabilité à l'autorité palestinienne et au Hamas. L'autorité palestinienne a appelé à la poursuite des vengeances, tandis que le djihad islamique a salué une réponse naturelle au crime de l'occupant. Et par contre, le président palestinien Mahmoud Abbas, au contraire, a condamné sans réserve l'attaque de fidèles juifs dans un lieu de prière et le meurtre de civils, quels qu'en soient les auteurs. Donc là, je le citais. Et bien sûr, Benjamin Netanyahu en a profité pour entamer des consultations sécuritaires et promis de réagir, bien sûr, d'une main de fer. Donc ça les arrange bien quand même. Les Israéliens, parce qu'ils peuvent avec bonne conscience massacrer des Palestiniens. Donc pour donner un petit état de la situation encore, c'est que la police et l'armée israélienne ont investi dès hier matin Jabek Mukaber, le quartier de Jérusalem-Est, d'où seraient originaires les auteurs de l'attaque. Les maisons des familles des suspects de deux cousins auraient été la cible de jets de gaz lacrymogène, tandis qu'une école voisine était évacuée. Déjà à la suite des précédentes attaques, les autorités israéliennes ont promis de procéder systématiquement à la destruction des maisons des familles des terroristes. Et ça, aujourd'hui, ça a été fait pour un autre attentat suicide qu'il y avait eu il y a un mois, et où la maison a été détruite aujourd'hui même. Donc là, ils ont mis en place, ils ont remis en place cette mesure. Donc le ministre israélien de la sécurité intérieure, Isaac Aaronovitch, envisage d'aller plus loin. Parmi les mesures de représailles annoncées, l'interdiction d'enterrer à Jérusalem-Est les auteurs d'attaques abattus par les forces de sécurité israéliennes. Donc vraiment, ça vient jouer sur des trucs symboliques super forts de t'es né en Palestine, bah t'as le droit d'être enterré en Palestine, et ben non, en fait t'as pas le droit d'être enterré dans ta ville, dans ton quartier, etc. Bon, voilà, des sombres nouvelles pour montrer à quel point ben, l'État israélien conquiert les territoires palestiniens et régit d'une main de fer la Palestine.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Allez, ben on change de continent, on va faire un tour au Burkina. Au Burkina où Michel Kafando, le nouveau président, a nommé aujourd'hui son premier ministre. Et son premier ministre, c'est Isaac Zida, le militaire qui a été au pouvoir depuis le 30 octobre dernier. Alors bon, petit retour sur les événements. Le président Compaoré, le plus ancien président de la planète, a été viré par des manifestations, c'était donc le 30 octobre dernier. Là-dessus, il y a eu c'est l'armée qui a pris le pouvoir un peu de façon unilatérale, mais ça a été finalement dans les gens de l'armée, ça a été ce lieutenant-colonel Isaac Zida qui a pris le pouvoir et là qui a été sommé quand même par plusieurs institutions internationales, dont la CDAO, dont aussi des gouvernements imprécis, les États-Unis ou quoi, de lâcher très très rapidement le gouvernement au civil. Donc ça, c'est chose faite depuis lundi. Enfin, c'est chose faite, disons, le président a été nommé lundi, en fait la cérémonie de passation de pouvoir se passera vendredi. Et donc ce nouveau président a décidé que c'était Zida qui serait son premier ministre. Voilà où on en est pour l'instant. On va essayer de voir d'un petit peu plus près comment ça se passe. Donc, Isaac Zida a dissous hier les conseils municipaux et régionaux burkinabés, donc qui sont des institutions qui datent de l'ancien président. Une mesure qui intervient après le limogeage de deux grands patrons qui étaient proches de François Compaoré, donc le frère de l'ancien président. Kafando et les nouvelles autorités auront la charge d'organiser des élections générales d'ici novembre 2015. C'est ça en fait, c'est que dans la nuit de dimanche à lundi où a été décidé ce nouveau président, il y a une sorte de charte qui est pas une constitution, qui est comme une pré-constitution en tout cas, qui organise la vie politique d'ici à un an, le temps d'organiser des élections. Et voilà. Et selon cette charte, en tout cas, Kafando, donc qui est président aujourd'hui, ne pourra pas se présenter au scrutin présidentiel. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a un vent qui souffle sur le Burkina, qui est le vent du renouveau des discours. En tout cas, c'est sûr. Pour le reste, ça va vraiment être à vérifier et à voir, parce que on se rend compte de quoi. Alors, qui est ce Kafando, par exemple, et qui est ce Zida? Et là, déjà. Ça me rend un peu moins confiance sur ce vent de nouveauté. C'est-à-dire que, en fait, pour l'instant, dès que quelqu'un ouvre la bouche au Burkina, quelle que soit la personne, elle commence par dire « Enfin, on est sorti de cette période Compaoré, heureusement, par rendre hommage aux martyrs du 30 octobre, donc les gens qui se sont fait buter dans les manifestations. » Mais alors voilà, donc on a un nouveau président, bon c'est un vieux, il a 72 ans, et qu'est-ce que c'est son parcours politique? Et ben c'est qu'il a été ambassadeur de la Haute-Volta, donc c'est l'ancien nom du pays avant le président Sankara, donc il a été ambassadeur de la Haute-Volta en 81-82, et puis du Burkina quand il s'est appelé, alors ambassadeur aux Nations Unies, et puis du Burkina quand il s'est appelé Burkina en 98-2011, ça veut dire que c'était Compaoré qui l'avait nommé à ce moment-là. Il a également été ministre des Affaires étrangères dans plusieurs gouvernements entre 82 et 83. Tiens, il a jamais été rien du tout entre 83 et 87, c'est-à-dire les années où c'était Thomas Sankara qui était président. Thomas Sankara qui, en un mot, a été le président du Burkina, qui a été un des très très rares chefs d'État vraiment classe sur la planète. Dont le passage au pouvoir a été marqué par énormément d'indépendance vis-à-vis des institutions financières internationales, de la France en particulier, enfin et des gouvernements impérialistes globalement et de la France en particulier. Sankara qui a fini par se faire buter, bon, par Blaise Compaoré, même si pour l'instant ça n'a jamais été dit officiellement, avec la France. Donc ce Michel Cafando a fait partie de tous les gouvernements plus ou moins crapuleux, alors plus ou moins selon lesquels, mais en tout cas de tous les gouvernements plus ou moins crapuleux du Burkina, et il a jamais fait partie du seul gouvernement intègre qu'a eu le Burkina. Voilà. En tout cas, l'opinion burkinabé penche plutôt de son côté, mais certains, dit RFI, non, pardon, dit l'AFP, certains lui reprochent d'être trop proche de l'ancien régime, voire d'avoir été hostile au défunt président Thomas Sankara. Alors, Cafando qui prête serment. À partir de la douloureuse expérience que nous venons de vivre, nous avons les yeux ouverts. La jeunesse burkinabé a les yeux ouverts. Les femmes burkinabées ont les yeux ouverts. Et plus rien ne sera comme avant s'agissant du respect scrupuleux de l'ordonnancement politico-juridique de notre pays. Voilà, ça c'est une partie du discours qu'il a fait en arrivant. Il faut donc, alors par contre, ce qui est effectivement un peu plutôt classe, c'est que la transition militaire a donc duré moins de 3 semaines. Alors qu'il y avait quand même un paquet de Burkinabés qui craignaient un peu le coup d'état de l'armée et le fait que l'armée se maintienne au pouvoir. Du coup, en l'occurrence, non, ils ont effectivement passé le pouvoir aux civils. Alors bon, en l'occurrence, à ce civil-là, certes. Après, il faut voir que quand même, il venait d'y avoir une révolution. En réalité, que peut-être que c'était un petit peu risqué pour qui que ce soit à ce moment-là d'essayer de confisquer le pouvoir de façon trop ultra visible. Pardon, je me demande par où je vais continuer, mais donc si je vais continuer par là. Ceci dit, ce nouveau premier ministre, donc ce lieutenant-colonel Zida. Alors lui, qu'est-ce qu'on sait ? C'est qu'il était le numéro 2 du régiment de sécurité présidentielle. C'est ça. Alors, là aussi, hein. Sous Compaoré, on avait ce truc qui s'appelait le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, qui était une partie un peu d'élite de l'armée. Et qui étaient censés être les gens qui étaient plus spécialement fidèles au président. Bon, dans la réalité, il y a quand même eu des grosses mutineries pendant l'année 2011. Hein. Mais voilà. Au moment le 30 octobre au soir, en gros, au moment où l'état-major de l'armée se réunissait en situation de crise en disant oh là, on peut pas laisser le chaos s'installer, et ça a été évoqué le fait que Gilbert Diendéré, qui était le grand chef du RSP, soit que ça soit lui qui prenne le pouvoir. Et puis finalement, ça a pas été lui, ça a été le numéro 2 du RSP, donc Zida. Et là, on a cette petite info qui nous est révélée par Bendré, mais en fait, elle nous est révélée par Bendré que parce que c'est dans cet ordre-là qu'on lit les médias. Mais eux-mêmes l'ont taxé sur la lettre du continent. La lettre du continent, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de publication pour diplomates, blablabla, sur l'Afrique. Je sais pas trop dans quelle mesure on peut faire confiance à ce que raconte la lettre du continent, mais là, même si l'article est présenté comme une sorte d'info top secrète ou je sais pas quoi, en réalité, cette info-là semble tellement ultra logique que bon, on peut se dire qu'on peut vraiment la prendre en compte. Alors, l'article date déjà de vendredi dernier ou quelque chose comme ça, en tout cas avant la nomination de Cafando comme président. Mais alors, voilà ce que nous dit l'article. Et l'article s'appelle « Comment Diendéré a manœuvré en coulisses ». Donc Diendéré, le grand chef du régiment de sécurité présidentielle. Et l'article dit « Si la menace de poursuite devant la Cour pénale internationale, en plus de la mobilisation historique dans le pays, ont rapidement convaincu Blaise Compaoré qu'il était temps de quitter le pouvoir, il a quand même laissé le soin à Gilbert Diendéré, son bras droit, de garder le contrôle de la situation. » C'est au cours d'une réunion de plusieurs heures au palais de Kossiam, dans la nuit du 29 au 30 octobre, que Blaise Compaoré a fait part, pour la première fois, de son intention de démissionner et de quitter le Burkina. Durant cette discussion, celui-ci, entouré d'un carré de fidèles collaborateurs, a évoqué son bilan et ses actions pour les populations. Parce que moi, j'ai bien l'impression que Compaoré est toujours persuadé d'avoir vraiment fait le mieux pour tout le monde, tout en s'en foutant plein les poches. Mais... Toutefois, le spectre d'une répression des manifestants, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire en 2011, durant la crise post-électorale, a conforté la nécessité d'un départ. Lors de cette rencontre, de cette réunion, le patron du régiment de sécurité présidentiel, Gilbert Diendéré, a été désigné pour pousser le scénario d'une transition, tout en restant l'intermédiaire direct du chef de l'État burkinabé. Dans les heures ayant suivi la démission de ce dernier, le 31 octobre, il est intervenu auprès du chef d'état-major des armées pour désapprouver l'annonce de ce dernier de s'autoproclamer nouveau chef de l'État. Donc c'était le chef d'état-major des armées qui a voulu être nouveau chef d'État. Diendéré lui a dit non, fais pas ça. Et là, à défaut de pouvoir prendre personnellement le contrôle de la transition par crainte d'envenimer la situation, Gilbert Diendéré a demandé à son adjoint, le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida, de prendre à tâche auprès des appareils politiques et de la société civile afin d'entamer des négociations. Et voilà. Donc ce que nous dit la lettre du continent, c'est que Gilbert Diendéré, que les gens voulaient vraiment pas, hein, parce que lui c'était vraiment juste le bras droit de Compaoré, quoi. En fait, c'est lui qui a demandé à Zida, Zida beaucoup moins connu, de se mettre comme personne de transition. Zida a fait ça, et là en réalité il vient de gagner un énorme coup en passant le pouvoir à Cafando, mais en tout cas en remettant le pouvoir aux civils. C'est un truc qui est quand même plutôt rare en Afrique, un militaire qui se retrouve au gouvernement et qui au bout de 3 semaines passe le pouvoir aux civils. Moyennant quoi, en fait, il a fait un énorme bon coup de com et de pub. Bon, il semble quand même que dans ce texte sur la transition, là, ça soit dit que le prochain président aux élections dans un an ne pourra pas être un militaire, donc ça serait toujours pas Zida. On va voir ce que ça donne dans la réalité. Pour l'instant, on va s'arrêter là-dessus, mais on va quand même juste repréciser que vendredi dernier à Paris a eu lieu une réunion d'opposants africains qui sont venus de 8 pays différents, il me semble. En tout cas, ça a fait le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, le Burundi, la Centrafrique, le Bénin, le Gabon, le Sénégal et la Guinée équatoriale. Et en tout cas, ils sont réunis à Paris pour exiger le respect de ce qui s'appelle les textes fondateurs, mais qui sont en gros les constitutions des pays. Donc pour exiger le respect des constitutions des différents pays, l'organisation d'élections libres et le respect du caractère républicain des armées. Et tous ces gens, en fait, sont réunis un peu avec « Waouh, après ce qui vient de se passer au Burkina, ça serait quand même classe que ce truc-là, il s'étende à d'autres pays. » Et du coup, il y a un certain nombre de présidents qui étaient visés un peu plus précisément, donc Kabila en RDC, ou le président dont je ne me souviens plus le nom en Ouganda. Non, mais qu'est-ce que je dis en Ouganda ? Au Burundi. Et puis voilà, c'est, alors eux, c'est typiquement des présidents qui sont en train de, exactement comme Compaoré était en train de faire, de préparer des révisions constitutionnelles qui leur permettraient de rester président encore beaucoup plus longtemps. Mais en l'occurrence, voilà, il y a vraiment cette idée qui se développe un peu en Afrique subsaharienne, donc l'Afrique noire en gros, d'une espèce de modèle de révolution burkinabé. Eh ben, on verra bien ce que ça donne dans les mois qui viennent. Voilà.
Et nous partons aux États-Unis où malheureusement le Ku Klux Klan est encore actif à Ferguson. Et oui, malheureusement, cette organisation criminelle raciste de sinistre mémoire distribue des tracts à Ferguson promettant d'user d'une force létale contre les manifestants. Donc, petit rappel des faits, c'est le climat qui devient de plus en plus pesant à Ferguson, donc c'est dans le Missouri. dans les moments qui précèdent la divulgation du verdict du grand jury chargé de décider de l'inculpation ou non du policier blanc Darren Wilson pour le meurtre du jeune noir Mike Brown, abattu à la suite d'un contrôle le 9 août dernier de 6 coups de feu alors qu'il était désarmé et qu'il avait les mains en l'air. Et ça d'après des nombreux témoins. Donc, il faut rappeler, c'en était suivi quand même des semaines d'émeutes. Et là, le tribunal va donner pour savoir s'il charge ou pas le flic. Et du coup, forcément, bah, ça fait remonter toute la tension d'un coup à Ferguson. Donc, cette présence du groupuscule raciste ne fait qu'ajouter à un climat déjà extrêmement tendu. À Ferguson, mais également dans toute l'agglomération de Saint-Louis, après la décision du gouverneur du Missouri de décréter, il a décrété un nouvel état d'urgence préventif. C'est génial, les états d'urgence préventifs. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Je cite, pour empêcher tout débordement à l'heure où le verdict du grand jury sera rendu public. Donc, Jay Nixon, le gouverneur démocrate, avait déjà suscité de nombreuses controverses en août, en faisant dresser cet été de façon particulièrement brutale la garde nationale du Missouri contre les manifestants. Donc, toutes les personnes qui s'offusquaient de la mort de Mike Brown et qui parlaient d'assassinat. Et ce nouvel état d'urgence est l'équivalent d'un message anticipé de non-inculpation du policier blanc aux yeux des manifestants, des opposants à l'État, des membres du collectif Hands Up, Don't Shoot, donc main en l'air, ne tirez pas, constitué pour que justice soit faite à Brown. Sachant qu'un tel verdict ne pourra naturellement qu'alimenter une explosion de colère légitime. Et donc il y a quand même des grandes chances pour qu'il soit pas du tout inculpé, ce flic, hein. Il faut bien préciser que...
Vu les précautions qui sont prises, on dirait bien.
Qu'ils sont inculpés ?
Non, vu,
ah non.
Vu
oui, les précautions... c'est ça. Oui, et puis que c'est rare en fait que des flics qui sont inculpés on est quand même dans un état raciste et la justice de classe. Bon voilà. Mais alors voilà, les hackers d'Anonymous sont rentrés dans la partie et affirment avoir piraté des sites web du Ku Klux Klan, donc cette organisation suprématiste blanche. Et qui se prépare à l'action contre ceux et celles qui s'opposent à la police et à la justice de classe. Et donc, c'est précisé, aujourd'hui bien éloigné du pouvoir de nuisance qu'il possédait dans les années 60, on va dire heureusement. Le Ku Klux Klan, donc c'est ça que révèle Anonymous, possède toutefois toujours de très discrets adeptes et sa présence reste avérée dans certains états, dont le Missouri. Anonymous a lancé ses investigations je l'ai déjà dit sur mais surtout ils ont identifié grâce au piratage d'un compte Twitter trois habitants de la région de Ferguson qui seraient membres donc du Ku Klux Klan. Il y aurait parmi eux un policier, un vétéran de l'armée US et encore un éducateur.
Donc, quel trio ?
L'article que j'ai trouvé ne précise pas s'ils ont révélé leur nom et leur nom, prénom, adresse. En tout cas, pour l'instant, c'est une première étape où, en tout cas, ils ont dit qu'ils connaissaient trois membres. Et voilà, c'est une manière de se venger contre le Ku Klux Klan qui parle quand même d'utiliser des forces létales contre, je les cite, les terroristes qui se font passer pour des manifestants pacifistes.
Nous en avons réussi jusqu'à présent qu'à accumuler des anecdotes insuffisantes pour la confiance.
Alors, je vais faire un point vite fait là sur les derniers trucs qui ont été faits par rapport à... aux violences policières, tout ça. Du coup, hier à Lyon, il y a eu une manifestation qui est partie de la place du Pont pour aller jusqu'au terreau en passant par la préfecture et qui a réuni en gros 200 personnes, il me semble. Un truc comme ça. Du coup, voilà, la manifestation s'est s'est déroulé dans le calme, comme je dis.
Dans trop de calme,
ouais, c'est ça. Mais à noter qu'une force policière extrêmement présente était sur place. Et à Nantes, qu'est-ce qui s'est passé hier? Et ben, il y a la permanence du Parti Socialiste qui a été recouverte de peinture rouge. Mais alors, quand je dis recouverte, ça veut dire que, après, je pense que les gens ont dû utiliser des extincteurs remplis de peinture rouge et ont badigeonné comme ça la devanture de la permanence du Parti Socialiste. Ce saccage a été revendiqué contre les violences policières. Et avec un tract que je vais vous lire, qui dit considérant que Rémi, Amine, Wissam, Zied, Bouna auraient pu être l'un ou l'une d'entre nous, considérant que de Nantes au Testet, de Toulouse à Trappes, le Parti Socialiste et sa police tuent, mutilent, emprisonnent, considérant que le pouvoir nantais nous a déclaré la guerre, comme en témoigne la longue liste des blessures et mutilations commises par la police ces derniers mois, considérant que les socialistes et leurs complices à Nantes comme ailleurs ont du sang sur les mains, nous avons éclaboussé de rouge les locaux du Parti Socialiste en plein cœur de la métropole. Nantes, 18 novembre.
Bravo.
Et voilà, c'est tout.
Chut, écoutez.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Pied. Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Dégueule les lois mises en place. Dégueule les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info contre la machine à expulser.
Alors, le rapport 2013 sur les centres de rétention est sorti. Alors, ce rapport est écrit par la CIMAD, Forum Réfugiés, France Terre d'Asile, l'Ordre de Malte et l'ASFAM. Ces cinq associations sont des associations qui sont implantées dans différents centres pour gérer tout un tas de trucs administratifs avec les retenues. Alors,
théoriquement, entre autres pour permettre l'accès aux droits des retenues.
Ah oui, alors là tu vas voir, c'est que théorique. Hein. Alors, l'état des lieux est dressé donc par le rapport, et ce rapport est assez craignos. Arrivé au pouvoir, le gouvernement avait décrété que la rétention administrative serait l'exception, et encore plus s'il y avait des enfants au milieu. Alors c'est quoi le fameux dicton, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, c'est ça? Les années ont passé et les chiffres parlent. En 2013, plus de 50 000 personnes ont été expulsées, soit une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente. Le ministère de l'Intérieur, au 31 janvier dernier, avait annoncé un chiffre de 25 000 expulsions, mais alors ça c'était sans prendre en compte les chiffres de l'outre-mer, qui quand même, on le note, double les chiffres d'expulsion. Sur les départements d'outre-mer, les associations démontrent que c'est là où les droits sont le plus bafoués. Les préfectures font à peu près ce qu'elles veulent hors de tout cadre légal, ou alors même si c'est dans un cadre légal, avec des lois, avec plein de régimes dérogatoires spécifiques à l'outre-mer. Par exemple, à Mayotte, sur 16 000 personnes enfermées, seules 963 ont pu faire un recours devant le tribunal administratif.
Ah ouais.
C'est quand même assez faible. 45 000 personnes, donc là je repars sur le national, tout ça. 45 000 personnes ont été placées en rétention, dont 3 600 enfants. Ce chiffre est en forte augmentation, puisque l'année dernière, 2 674 enfants avait été placé en rétention.
On a des chiffres de l'époque où c'était Sarkozy qui était président.
Moi, j'ai l'impression que ça fait quand même que d'augmenter. Hein.
On dirait bien.
Parce que l'année dernière, on en avait parlé, alors moins sur des chiffres d'enfants et tout, mais en tout cas, par rapport au nombre d'expulsions, à chaque fois, c'est des années et des, enfin, d'année en année, c'est de pire en pire. En Outre-mer, à Mayotte particulièrement, la situation est bien pire. Et oui, c'est possible. En 2013, 3309 personnes, dont 223 enfants, ont été retenues hors de tout cadre légal. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui ont, par exemple, été retenues dans des commissariats, du coup, sans que rien soit notifié, tout ça, et qui ont été renvoyées chez eux.
En droit, ça s'appelle un enlèvement. On est bien d'accord.
Ouais, c'est ça, ouais. Mais j'ai l'impression qu'à Mayotte, là, en lisant ce qui peut ressortir de ce rapport-là, c'est que la situation est catastrophique, quoi. Et pour les sans-papes qui vivent sur l'île et pour les migrants qui arrivent, tout ça, tout ça. Au niveau du contrôle de la procédure d'arrestation et de rétention, alors ça, c'est le contrôle qui se fait devant un juge. Son accès par les retenus est en net recul. En métropole, 54% des retenus ne sont pas passés devant un juge avant d'être expulsés. En Outre-mer, c'est 99%. Cette augmentation a été permise grâce, on s'en souvient, à la loi Besson de 2011 qui a repoussé le délai maximum d'intervention des juges de 48 heures à 5 jours. Et pendant ce temps, bien sûr, les personnes peuvent se faire expulser. C'était ce projet de loi, enfin c'est dans ce même projet de loi où la rétention avait été passée de 30 jours à 45 jours. Donc dans ce rapport, par rapport à ça, même dans ce rapport, ils disent que en gros, allonger la durée de rétention, ça sert à rien, parce qu'en moyenne, les gens sont expulsés dans les 10 premiers jours. Et oui, donc voilà, donc le fait de passer de 48 heures à 5 jours augmentait les chances de pouvoir expulser la personne avant même qu'elle ne croise le JLD. Le JLD, on le rappelle, c'est juge des libertés et des détentions. Et qu'il y ait un risque pour que les avocats pointent au juge une erreur de procédure et que le juge soit contraint de libérer la personne. Donc voilà, avec ce rapport, en gros, on voit très clairement, si des gens en doutaient encore, qu'en 2011, le PS criait au scandale sur les lois Besson et qu'une fois arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent toutes ces petites lois bien au chaud et les appliquent avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de zèle.
Il faut que ça se sache.
Et maintenant, on parle de Calais, encore une fois, un peu notre rubrique hebdomadaire. Donc, je vais parler surtout de samedi. Puisque, alors samedi, il y a une quarantaine d'étudiants et enseignants du SOAS, qui est quoi? Qui est la School of Oriental and African Studies, qui est à Londres, qui sont arrivés par ferry et qui ont rejoint en musique les exilés syriens qui manifestent rue Lamy chaque jour depuis le 6 novembre. Ce dont je vous avais parlé la semaine dernière, c'est réfugiés syriens qui essayent de se battre de manière plus ou moins légale pour obtenir de passer aux États-Unis, bien sûr, en Grande-Bretagne. Et donc, une partie du groupe a passé après-midi avec les Syriens et le reste du groupe a rejoint donc, la manifestation qui se tenait devant le centre de rétention de Coquel. Et donc pour protester contre les politiques d'enfermement et d'expulsion des étrangers en France. Donc une soixantaine de personnes y ont participé. Donc c'était plutôt tranquille, distribution des tracts aux passants. Il y avait une samba activiste qui jouait. Et par contre, un gros dispositif policier avait été mis en place et encadrait le rassemblement avec une dizaine donc, de camions de CRS postés sur un parking voisin. Et pour redire, donc l'appel à la manifestation de Coquel avait été repris ailleurs en France. Il y a eu 8 villes où il y a eu des manifestations. Et puis rappelons qu'à Lyon, la manif contre les expulsions et le logement a ramené en gros 1500 personnes dans les rues de Lyon samedi. Et là, on va écouter Marie-Pierre qui parle un peu de cette manif. C'est un petit reportage qui dure 5 minutes.
Donc manifestation hier devant le centre de rétention, comment ça s'est passé?
Plutôt pas mal, parce que ça faisait au moins 2 ans qu'on n'avait pas essayé d'organiser un rassemblement pour dénoncer ce lieu. Et je pense qu'on était une soixantaine, avec pas mal de Calaisiens, de ces nouveaux Calaisiens qui aident au quotidien les exilés. Quelques exilés qui sont venus aussi. Et puis bon, des Anglais aussi qui étaient là, de passage à Calais, qui sont venus aussi. Donc ce rassemblement, il était appelé dans le cadre du festival Fête de la Fraternité. C'était un peu peut-être le moment de colère dans tous les trucs culturels et sportifs qu'il y a eu dans les quelques jours là. Donc c'était pour montrer ce lieu que tout le monde ignore, hein, parce que pas mal de personnes dans celles qui aident les exilés ils ne savaient même pas qu'il y avait un centre de rétention derrière le commissariat de la PAF. Certains pensaient que c'était là qu'on mettait aussi les exilés pris à voler ou à faire un petit délit, alors que pas du tout. Ceux qui sont enfermés là, c'est juste parce que ils sont pas nés au bon endroit, ils ont pas les bons papiers, quoi. Là, c'est pas une prison, quoi. C'est un centre de rétention administrative fait pour essayer d'expulser les gens vers leur pays d'origine ou un des pays par lequel ils sont passés.
Alors, il y a un appel qui est parti de Calais, en fait, qui a été lancé il y a quoi, 3 semaines, un mois, qui a été repris ailleurs en France.
Ben oui, il y a eu. On n'a pas encore de nouvelles, mais ça va commencer à arriver, je suppose, par Internet les jours qui viennent, des nouvelles des autres endroits. Donc, il y a eu. Enfin, voilà quoi. Il y a d'autres groupes informels qui se sont mobilisés contre les centres de rétention qui existent chez eux. Donc, je sais qu'il y a eu à Rennes, il y a eu à Lyon. Je ne sais plus trop, je n'ai pas trop la liste en tête. Il me semble qu'il y a à Toulouse aussi. Enfin, 6 ou 7 endroits, je crois. Hein. Il y a eu le même jour, donc, mobilisation pour dénoncer les centres de rétention et les expulsions. Faut dire que les militants en ce moment, ils ont peut-être un peu peur aussi qu'une vague d'expulsion redémarre, parce qu'on voit quel est les autorités ils disent qu'ils font preuve d'humanité en décidant d'ouvrir un accueil de jour, mais dans les déclarations ils oublient jamais de dire que ceux qui n'ont pas vocation à rester ici n'ont rien à y faire et on les reconduira à la frontière. Donc on s'attend quand même à des vagues d'expulsion. Et c'est très bien de remettre en avant les centres de rétention, parce que peut-être sous peu, on va avoir à se mobiliser parce qu'on aura des copains enfermés dedans et qui risquent d'être expulsés dans des pays en guerre, quoi. Et pas simplement en Italie ou en Grèce, on expulse, je crois, mais on expulse encore en Italie. Et normalement, la France n'expulse pas vers l'Afghanistan, mais les Anglais le font, par exemple. Donc, ça pourrait très bien se produire si ça se passe sans qu'on le sache, sans qu'on alerte. En septembre, on sait qu'il y a eu une expulsion vers le Soudan depuis ici. Et on se demande si c'était pas un coup d'essai du gouvernement pour voir s'il y avait des réactions. Bon, ça a réagi au niveau national aussi. Donc apparemment, il n'y en a plus eu, quoi. Mais si personne n'avait réagi, qui sait, peut-être que si ça serait déjà en route, il y en aurait eu plus qu'un depuis septembre, quoi.
Oui, on sent que de toute façon, ils essayent, entre la circulaire du 11 mars qui recommande au préfet d'expulser les gens qui sont déboutés de leur demande d'asile et la réforme du droit d'asile qui est programmée, dont l'un des buts affichés est d'être plus efficace en termes de reconduite à la frontière s'il y a une réponse négative. On sent que ça, c'est dans l'air.
Ben oui, cette accélération des procédures aussi, c'est bien d'un côté, mais ça fait un peu peur aussi, parce que s'ils accélèrent, c'est peut-être pour dire plus vite débouté, quoi. Donc on verra. En venant, quoi. Il faut être resté vigilant et pouvoir se mobiliser en cas de besoin.
Donc, il devrait y avoir des suites ?
Des suites à quoi ? À la mobilisation au centre de rétention ? Moi, j'espère, parce que ce centre de rétention, il est à côté de la Cité Europe. Hein. Le samedi, il y a des files et des files de voitures, de gens qui viennent consommer. Donc, il y a des tas de gens à informer. Je veux dire, on peut distribuer de l'information assez facilement. Bon, les gens qui viennent faire leurs achats, ils sont pas forcément ouverts à prendre un texte, mais au moins ils le prennent, et s'ils le lisent plus tard, sur 100 tracts, il y en a 10 qui le lisent, c'est déjà pas mal, quoi. Et là, on en a distribué 2000, donc voilà, s'il y a 200 personnes qui l'ont lu, ça sera ça de gagné, je trouve.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ?
Pierre par pierre, mur par mur, nous détruirons toutes les prisons.
Ok, merci.
Il faut que ça se sache.
Voilà, c'était un reportage de Arte Radio que nous venons de diffuser. Et donc, je vais continuer en parlant un peu quand même encore des Syriens qui se mobilisent depuis le 6 novembre. Et pour dire, pas une nouvelle joyeuse, c'est que la situation devient éprouvante pour eux. Au vu du refus de dialogue des autorités britanniques, de l'absence de réaction des autorités françaises, alors qu'ils se bougent, qu'ils font des manifs tous les jours, qu'ils sont allés essayer de parler à plein de gens, des situations invivables à Calais, donc parce qu'ils sont dans une précarité forte, de familles à aider au pays, ce qui veut dire trouver une solution rapidement en Europe, et ben de plus en plus d'entre eux essayent de passer, puisque c'est la seule voie qui leur laisse, que leur laissent les autorités, avec ou sans passeurs, selon leurs moyens financiers. Donc voilà la situation des Syriens et de tous les exilés qui est à Calais. Faut que ça sache.
Il faut que ça sache.
Et je voulais prendre un petit peu de temps pour faire la pub pour le festival Migrants Scène, qui est le festival Regards Croisés sur les migrations. Donc cette année, c'est la 4e édition de ce festival organisé par l'association La CIMAD, qui propose un regard sur les migrants en Europe et qui est critique donc des politiques de l'Europe forteresse. Leur festival est du 18 au 28 novembre. Et bien sûr, c'est pour faire tomber les murs de cette forteresse, défendre une vraie liberté de circulation et une véritable politique d'accueil. Donc au programme, 7 lieux différents, des spectacles vivants, des débats, de l'art. Voilà, donc ce vendredi 21 novembre à 20h, il y a une soirée à la salle Ganton et MJC Lainec Mermoz Lyon 8e. Donc c'est de la danse et du théâtre, qu'on rouvre les fenêtres, ça s'appelle, de la compagnie Endo. Donc 8€ tarif plein, 5€ tarif réduit. Samedi 22 novembre, dès 16h, il y a une après-midi jeu. Soirée art vivant à la MJC de Villeurbanne, pareil pour les tarifs. Et donc il y a jeu de rôle, vos papiers s'il vous plaît, alors je sais pas ce que c'est. 18h30, danse, reportage, la traversée clandestine de Yao Ebi. 19h30, repas convivial. Et ensuite, de la danse, théâtre d'improvisation de la compagnie Combat Absurde. Lundi 24 novembre à 14h30, c'est au cinéma, au Centre Social des États-Unis. Donc c'est entrée libre et c'est projection du film D'un mur l'autre, de Berlin à Kyoto, de Patrick Jean. Mardi 25 à 19h30, c'est une soirée lecture et cinéma au Lavoir Public, donc c'est Lyon 1er. C'est entrée libre avec adhésion à l'association de 2 euros. Donc c'est des lectures de Lampedusa Beach par Liane Grange du collectif de Lattre, 21h30, projection de Chenglet de Laurent Nègre, Miyamba de Luc Pérez et Rétention de Thomas Kruithof, c'est trois petits courts-métrages. Et jeudi 27 novembre à 18h30, une conférence débat à Bibliothèque Municipale de La Part-Dieu autour de l'ouvrage « Rome et riverains, une politique municipale de la race ». En présence des auteurs, donc Éric Fassin et Serge Guichard. Et pour finir, vendredi 28 novembre à 20h30, donc soirée performance et concert et exposition au Toy Toy Le Zinc. C'est par contre ça, tarif unique, 7 euros. Donc vous pouvez retrouver tout ce programme sur migrantscène.org et les photos du festival sur la page Facebook. Donc voilà, migrantscène Lyon. En tout cas, voilà, j'avais envie de lire le programme parce qu'il est assez riche et différent et ça mêle vraiment plein de quartiers de Lyon et plein de trucs différents entre des lectures et des expos et la musique et des discussions, des débats. Donc voilà, c'est assez intéressant. Ben voilà, pour ce Faut que ça sache, et je peux continuer sur un agenda plus global. Donc il y a le Tidor, c'est demain, et il y a la projection d'un film retraçant l'histoire de Gwen Arojo, assassinée en 2002 car elle était trans. Donc bien sûr, chaque 20 novembre, c'est la journée internationale du Tidor, Transgender Day of Remembrance, qui dénonce les violences subies par les personnes trans et rend hommage aux personnes trans assassinées au cours de l'année. Donc au moins 226 en 2014. Et l'année n'est pas finie. Rappelons donc que la transphobie n'est toujours pas reconnue comme circonstance aggravante de ces crimes, contrairement à l'homophobie. et donc ça sera demain à la Plume Noire, 8 rue Diderot. Ouverture des portes à 19h et projection à 20h.
À Lyon, du 22 au 23 novembre, c'est-à-dire ce week-end, a lieu le Salon des éditions libertaires. Alors ça se passe du coup samedi, dimanche. Samedi c'est de 10h à 19h et dimanche c'est de 10h à 18h. Tout ça se trouve à la Maison des Associations à la Croix-Rousse, c'est 28 rue d'Enfer Rochereau à Lyon 4e. En gros, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Des débats sur la robotisation, par exemple, sur la PMA et la GPA, plein de trucs, plein de débats, des trucs sur la violence contre les Roms, tout ça, tout ça. Des projections, des ateliers sérigraphie, une chorale, une exposition photo, et votre radio préférée, Radio Canu, sera présent pendant ce salon et émettra en direct avec des invités, des auteurs de livres, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, vous retrouverez le programme complet sur www.lagriffe.net ou alors www.rebellion.info.
Pardon, j'ai pas vraiment écouté. T'as dit que Radio Canu allait diffuser grave des débats.
Ouais, voilà. Super. On sera là, on suivra tout ce qui se passe et tout.
Ce samedi, il y a un concert d'un groupe de Guinée Trans là qui s'appelle Paolo Transpire, groupe de rock vagin. Rock Vagin, je sais pas. Je sais pas si c'est un jeu de mots ou si c'est un vrai style, alors vous voyez. Mais en tout cas, le concert aura lieu à Lyon. Ça se passe au Craspec Musique. C'est 20 montée Saint-Sébastien, donc dans le premier. Et c'est 6 euros. Et puis, on avait envie de finir ce Canu Info pour parler de la grosse manif qui va avoir lieu le 29 novembre. Alors que se tient le congrès du Front National à Lyon, une manif offensive contre le FN et le racisme d'État. Voilà, et je lis à la fin du communiqué, ne nous indignons pas de la montée de l'extrême droite, nous voulons nous organiser en conséquence. Et dans le contexte actuel de révolte après la mort de Rémi, nous appelons à une réaction dans la rue le 29 novembre, quitte à trouver la police sur notre route et à refuser de faire marche arrière. Il n'est pas possible que la venue du FN à Lyon se déroule tranquillement. Donc rendez-vous le 29 novembre à 14h, place Jean Massé. Voilà. Donc, bonne soirée.
Bonne soirée à vous et après on va laisser la place à Idée Noire, où on va peut-être même pas lancer leur jingle tout de suite, ou on met un peu de temps de continuer.
J'ai mis un peu notre jingle pour pouvoir enchaîner avec le leur. On se retrouve la semaine prochaine, 19h, mercredi. Ciao, ciao.
Bonne soirée.